Il y a chez le Rav Nachman de Breslav des pages extraordinaires là-dessus. C'est que qui, il pose la question, qui a aimé l'humanité? Il c'est Moïse. Alors que Moïse est toujours cité comme spécificité hébraïque pure par rapport à l'universalisme.
Pas selon Freud.
Mais, c'est vrai?
Pas selon Freud.
Pas seulement, vous savez, le Moïse de Freud,
c'est lui-même.
Traduisez Moïse par Jésus.
Non, je ne traduis pas, justement.
Non, traduisez Moïse par Jésus pour Freud et vous comprendrez quelque chose.
Ah, c'est possible. Ah, ça c'est possible.
Vous l'aviez jamais entendu?
J'achète.
Vous l'aviez jamais entendu?
Non, j'achète.
C'est une invention. J'ai inventé, hein.
J'achète. Ça veut dire en votre nom. Que vous allez me dire parce que...
Claude Taïeb.
Taïeb. Tunisie. Ah. Et alors, il y a un verset qui dit Kene Chorma Veltimkor. Achète la sagesse et ne vend pas. Comment on va faire? Qui peut expliquer? Kene Chorma Veltimkor. Achète la sagesse, mais ne vend pas. Eh bien, c'est ce qui s'est passé. Il n'a pas voulu me vendre, mais moi j'achète. Alors, non, vous avez compris.
Vous vendez aussi.
C'est
vrai? Vous vendez aussi. Vous vendez aussi?
Non, je ne vends pas, je donne.
Vous avez donné aussi?
Oui, c'est ça. Et alors, Madame Torah, la Torah se donne, elle ne se vend pas, mais elle s'achète.
On doit payer l'entrée pour venir aux conférences.
Par exemple. Non, il faut bien. Oui, c'est non, mais c'est
non. Il n'y a qu'à faire payer les grandes conférences où il n'y a pas Torah pour
faire. Il faut bien payer le chauffage.
Oui, non, mais il faut faire payer.
Bien, revenons au problème. Vous voyez ce qui se passe. Alors, je voudrais vous citer, mais rappelez-moi, parce que je n'ai pas le livre ici. Non, c'est dans Vaïkra. Rappelez-moi que je vous cite le Or HaChaim. Le Rav Chaim Ben Attar, si vous le préparez, sur le verset 25 du chapitre 25, c'est facile à retenir, 25 du chapitre 25 de Vaïkra. Ce qu'il dit à ce propos, justement. Okay. Et nous le lirons de même, et très rapidement. Et voilà donc le problème. S'il n'y a pas eu capacité de se libérer vite, alors risque de se dévoiler cela. J'aime mon esclavage. Okay. Alors bon, tiens ton esclavage, tu iras jusqu'à la fin de la loi des temps. Tu iras jusqu'au vendredi soir, mamache. Pour pouvoir faire ton kiddush in extremis pour le Shabbat. Et peut-être que nous sommes arrivés là. Vous comprenez, aucun esprit malin n'est venu nous dire, avec des contes magiques, c'est le temps. Nous lisons notre calendrier, tout simplement. Nous sommes à la veille du 7e millénaire. Nous sommes à l'année 5730, combien 9.
Déjà, aussi,
on compte, ça va vite. Okay. Alors, le problème est très simple, c'est que les événements massifs sont arrivés en ce temps-là. Donc c'est le temps, 2 et 2, ça fait 4. Pourquoi on va chercher midi à 14h? Et voilà que, si vous voulez, d'une certaine manière, ça nous met à l'aise pour pouvoir comprendre énormément de chapitres des prophètes. Et il y avait une contradiction. Cet exil, nous en étions chargés, il y a une mission, il faut le faire. Alors pourquoi les prophètes ont tellement tonné contre l'exil? Et en nous en parlant comme une malédiction. Parce qu'il y a ce problème du rendez-vous. Fais vite. Tu as cela à faire, mais fais vite. Tu es chargé de mission, mais reviens vite. Dvarim Mahadim. Alors, on a... Ça ne veut pas dire, et ça je le dis très clairement, qu'énormément de juifs qui, au nom de la Torah, sont contre le retour à Sion parce qu'ils ne sont pas sûrs que ce soit le temps, sont contre parce qu'ils aiment la bigoye. C'est pas vrai. Ça ne veut pas dire cela pour tout le monde. Je pense que c'est clair. Mais c'est ça l'erreur la plus catastrophique si on a raté le rendez-vous. Okay? Il est minuit, docteur. C'est un peu ça. C'est ça qui nous met dans l'angoisse absolue. Parce que si l'heure est passée, il n'y a plus de protection. C'est ça qui est grave. Alors là, pourquoi je vous disais tout à l'heure, Ashdod y compris, en Israël, il y a des problèmes normaux. Et faites bien attention, c'est un écran de fumée. Cette espèce de soi-disant oppression culturelle entre Ashkenaz, Sepharad, l'Occident, l'Orient, tout cela, ça c'est des affaires de Goïm, l'Occident et l'Orient. Israël n'est ni en Orient ni en Occident, c'est l'unité des deux. Mais c'est des problèmes municipaux, c'est des problèmes de politique dans la maison, c'est des problèmes de lutte de force politique. Et je vais vous dire un paradoxe, mais j'ai jamais rien compris à cette histoire marxisme par marxisme en tant que juif en France. Depuis que je suis israélien, je rentre là-dedans parce que c'est des problèmes de lutte de force politique. Qui a le pouvoir gère les budgets. C'est ça le vrai problème. Mais c'est des problèmes normaux à l'échelle de la vie normale. Les problèmes juifs de la galoute, c'est des problèmes artificiels, c'est des problèmes anormaux, c'est des problèmes névrotiques à la limite. Je dis bien à la limite, ça, je n'ai pas dit que tous les juifs de la galoute sont névrosés. Mais il y a de quoi, parce que ça devient une vie absolument artificielle. Et je crois que c'est en France que c'est le plus difficile. Dans les ghettos polonais ou lituaniens ou même hollandais, sfarad-hollandais d'Amérique ou d'ailleurs, on se fait une petite cohérence, coquille, cocon. Okay, mais en France, vraiment, on est interpellé. Une espèce d'héroïne, super-héroïne, comme en font les rabbins français, moi je les admire, de loin.
Le problème est là, les rabbins disent qu'il faut partir et eux ne partent pas. Moi je crois que c'est eux qui les
rabbins. Bon, écoutez, c'est encore un autre problème. Moi c'est vrai, je me recorde à Maïmonide. Maïmonide nous a prévenu. Vous partez dans le grand voyage, Jacob, solitaire, sachez que ça va être difficile, la Torah l'a prévu, c'est comme ça que le monde fonctionne, vous êtes en mission, j'allais dire les croisés, il ne faut pas dire ça comme ça, mais c'est presque ça, c'est la grande croisade, vous allez monothéiser le monde, leur parler de la loi morale, vous allez, sachez que vous serez persécuté, mais pas trop, une limite. Et à partir du moment, vous aurez une protection. Et je serai avec toi, et je remonterai avec toi, dit Dieu à Jacob. Okay. Mais il y a un rendez-vous, il y a une espèce de temps fixé. À partir du moment où le temps serait arrivé, vous voyez, je mets ça au conditionnel, du moment où le temps serait arrivé, alors la protection est là. Vous savez de quoi j'ai parlé sans en parler, finalement, depuis une heure, de ce que j'ai pas pu oser il y a deux ans, parce que, un an, en parlant de la Shoah. Okay. Mais... si la protection est levée, toutes les catastrophes sont possibles. Et alors, vous entendez la gravité du problème. Nous participons maintenant de nouveau à des réunions, concernant le...
Elle pose une question logique.
Le recommencement de l'antisémitisme. Et nous sommes inquiets de voir que les Juifs ici ne sont pas suffisamment inquiets. Il y a quelque chose comme ça. Vous comprenez ? Ça nous fait froid au dos. Qu'est-ce que vous avez dit ?
Non, je disais simplement que dans la Shoah, l'Israël n'était pas créé, donc on aurait dû encore organiser la protection. Nous sommes dans la logique de votre.
Écoutez, je n'ai pas répondu. J'ai fait simplement allusion, mais je vais vous répondre quand même. Israël a été créé par ceux pour qui Israël n'était pas encore créé. Vous comprenez ce que je veux dire ? Bon, d'une part. Et puis d'autre part, schématiquement, si le temps était venu, eh bien, il ne fallait pas se laisser prendre au piège. Je veux dire, le temps était venu de quoi ? D'abord de décrocher de la galoute. Je veux dire très très objectivement, parce que Eretz Israël c'est très important, mais le peuple juif aussi c'est très important. Il fallait aussi décrocher, aller ailleurs. Bon, pas dans les marais du Roulet où il y avait les moustiques, mais pas dans le Negev où il n'y avait rien. Enfin, qu'est-ce qu'il y avait en Eretz Israël à l'époque, où ça s'appelait la Palestine britannique ? Eh bien, il y avait des cactus, il y avait des cailloux, et quelques Turcs, quelques Arabes, pas beaucoup d'ailleurs, et puis des fonctionnaires de l'Empire britannique. Donc, bon, mais pourquoi pas aller ailleurs, mais décrocher. Vous comprenez, on s'est laissé prendre au piège d'une civilisation devenue malade. Le temps est devenu décroché. Je veux dire, je crains qu'aujourd'hui, c'est le cas du judaïsme américain. Bon, ici en France, c'est très angoissant, enfin inquiétant ce qui se passe, c'est irritant. De voir cette espèce de résurrection de la droite française, ça fait peur. Que vous avez les chemises brunes, ça fait peur. Eh bien, mais c'est arrivé déjà en Espagne comme ça. C'est arrivé en Allemagne comme ça. Je crois, je ne m'étais pas préparé à formuler cela, mais je voulais quand même dire l'idée. C'est quand la symbiose judéo-goy est réussie qu'il faut décrocher. Or, aujourd'hui en Amérique, la symbiose judéo-américaine est très réussie. Alors, c'est sans doute que le temps est arrivé de décrocher. J'ai l'air de dire des choses paradoxales. Voilà, c'est très réussi. Il n'y a aucune idée à quel point on sent cela. L'Amérique est judaïsée et le judaïsme est américanisé. Je ne sais pas quoi. C'est pas forcément toujours de bonne qualité. Il y a un Elie Wiesel pour combien de. C'est spectaculaire. Alors peut-être que le moment est venu de décrocher. Et que si on ne décroche pas. Qu'est-ce qui est arrivé en Espagne ? La symbiose judéo-espagnole était inouïe. C'était vraiment de grande envergure. On n'a pas décroché et l'Inquisition est arrivée. En Allemagne, la symbiose judéo-allemande était colossale, avec un K. Okay. On n'a pas décroché, le nazisme est arrivé. Ça fait peur, mais c'est comme ça. Je crois que C'est assez inquiétant. Et je reviens à l'essentiel. Ne croyez pas, comme a dit Michel, on était dans le sujet. C'est « je barti et trêve, l'autre dit chéri, on y arrive demain ». Il me reste encore demain et dimanche, je préfère essayer d'y arriver. C'est cela, le fait d'avoir attendu, la Torah le dit en clair, le fait d'avoir attendu jusqu'au bout, c'était quoi? Jusqu'à ce que la loi des temps oblige. C'était quoi? Eh bien voilà, il dit « ahavti et adoni », j'ai aimé mon... Comment on peut dire? Mon patron, mon maître. Non, je cherche le mot. J'ai aimé mon tortionnaire. C'est ça le fond des gens. Okay. Tira. Écoutez, le sadomasochisme, là, comment ça s'appelle? Écoutez, je dirais encore une phrase, puisqu'il nous reste 5 minutes là-dessus. Les persécutions les pires s'appellent en hébreu Befarech. Befarech. Perach. Quand la bouche dit « Oh, je voudrais te », mais quand la bouche dit « Oh, je voudrais te », c'est pire. Mais je vous comprends. Hein. Je t'aime tellement que je te mangerai. Hein. Vous voyez le problème. C'est pire, les frères. Comment les juifs français, mais européens, se sont laissés prendre au piège des camps? Les frères, on les a... Hein. Je me rappelle toujours de ce qu'avait dit M. Sperber à ce séminaire. Il dit, ce qui nous a eu, c'est ce qui nous a... c'est notre espérance, notre capacité d'espérance. À chaque jour, on espérait, ça va s'arranger. On est tellement espérantiste qu'on se disait, ça va s'arranger. C'est pas un tortionnaire, c'est pas possible. Jusqu'à ce moment, on tombe dans le piège. Halacha, Esav, Sonet, Yaakov. Quand Esaü est venu embrasser Jacob,
il a mordu.
Et alors, le Midrash dévoile, on va le payer cher, ça. Que Jacob se fait embrasser par les amis. Heureusement que Dieu, dans sa grande sagesse, a transformé son cou en marbre, dit le Midrash, parce qu'il voulait le mordre, il s'est cassé les dents sur le cou en nuque, la nuque raide. Mais c'est ça, moi, j'ai peur de cela. Ce visage aimable qui vient dire oh, je t'aime tant, mais je t'avalerai, je te mangerai. Okay, voyez, c'est de l'amour de cannibale.
Pardon. Bien, est-ce qu'on ne peut pas se poser la question aussi, les dieux de bonté, de charité, de tzedek, est-ce qu'ils n'auraient pas pu donner un signe, mais pas trop vite passé, pour attirer l'attention des juifs, que le moment est venu, et pas pour que les juifs ne les voient pas, ou les disent c'est le passé.
Je vais revenir à ma question, mais vous avez raison, c'est la question. Les signes ont été donnés. Mais
si on ne les voit pas.
Mais si on ne les voit pas.
On
n'y a
pas que nous, les gens.
Et si vous voulez, on va finir par parler de ça. Mais. Tout.
Et même ce qui nous atteint, des fois, on ne voit pas que c'est un signe.
Oui, non, écoutez.
On ne comprend pas les événements comme ça.
Écoutez, je veux dire, c'est le fameux problème de. Il y a un seuil d'irréversibilité de l'entêtement. Finalement, le Rav Kook nous a dit une fois, quand on a étudié ces choses, finalement, l'exil comme punition, vous avez entendu cette doctrine, l'exil comme punition, bon. Et l'exil punit quoi? Il nous a dit une fois, l'exil punit le fait d'être en exil. Il n'y a pas d'autre punition de punition. Okay. Ça veut dire, l'exil punit le fait d'aimer l'exil. Et non, je vais vous dire, et là il faut être vraiment courageux, les signes ont été donnés. Et il y a des rabbins, je vous citerai par exemple le Rav Ashlag. Le Rav Ashlag, dans les années 20, vous avez entendu parler du Rav Ashlag, le Soulan, dans les années 20, à Varsovie, en Pologne, a fondé un groupe de Aliyah. Bon, il s'est fait persécuter, mis au banc, excommunié par tous les rabbins de Varsovie. Et finalement, avec une difficulté énorme, il a pu arriver en 2 ans de voyage, il a pu arriver en Israël. Et il raconte cela. Et lui, il passait son temps à crier, à hurler. Il dit attention, comment on disait ce chant, il se brûle, ça brûle, ça va brûler, ça brûle. Et bien, le Rav Ashlag s'est fait excommunier par tous ses collègues de Varsovie. Qu'est-ce que c'est? Tu vas rejoindre les kibboutzim, on ne sait même pas s'ils mangent kasher, je ne sais pas si vous vous rendez compte où ça se place comme le décalage. Peut-être qu'ils ne mangent pas kasher 4 étoiles, et Eretz Israël, sous le trèfle. Alors, non, mais finalement, ça, ce n'est pas ce que je vous dis. Je vais vous dire. Si vous voulez, nous pouvons étudier les textes et je vous montrerai les sources des choses écrites, de ce qu'ont écrit les rabbins de cette époque. Pour toi, c'est pas ce que ça se passe. Mais je vous dis comment c'est arrivé dans la réalité historique. C'est rare. Par exemple, attendez, mais je veux dire, nous avons une lettre, par exemple, d'un grand de la Halakha, que vous savez qu'on rentre dans la Shemitah cette année. La Shemitah, c'est très important. Alors, il disait, bon, et on les comprend, s'ils ne voient pas que le temps est arrivé, il y a des scrupules qui passent avant. Et une lettre que la Shemitah, la septième année de la Jachère des Terres. Et alors, il dit, mais, oui, c'est très bien, la Terre Sainte, tout ce que vous voudrez, mais. Est-ce que c'est sûr que là-bas, les gens, ils observent la Shemitah? Et alors, et si on risque de manger une tomate, on n'a pas pris la trauma? Et alors, parce que vous me dites, qu'est-ce que c'est ce Dieu cruel, hein? Oui. Non, justement, c'est moi qui dis cruel. Parce que ce Dieu de bonté aurait dû nous donner des signes. Hein? Mais Kol Koré, Bamidbar, les voix ont crié, mais ils ont crié dans le désert. Et alors, une lettre qui m'a un peu glacé, parce que ça fait que c'est Fika Midrabanan au 13e degré. Vous savez ce que ça veut dire? Il y a le doute d'un doute au 13e degré que peut-être c'est grave si on arrive à manger une tomate qui se perd dans une tomate où on n'a pas fait la trouma, ou le maasé. Okay? Et à côté de ça, quel est le problème? On va se faire brûler. Alors, ça ne fait pas le poids. Okay? Vous comprenez ce que je veux dire? C'est loin de faire le poids. Alors, c'est scrupule. Et après, quand on étudie la question de la cheville, et qu'on s'aperçoit que la cheville de notre temps, ça ne peut être que Midrabanan. Ça veut dire que c'est ça fait que si on a appliqué, c'est le moment où on les applique quand même pour ne pas les oublier, et etc., etc. Et qu'on voit les perspectives qui font ouvrir les yeux sur l'état du problème. Attention, tu vas aller là-bas, ça ne mange pas cachère. D'abord, ça mange cachère. Et puis, alors, ça dépend où tu vas, et, etc. Vous comprenez? Alors, il y a des. C'est l'endroit, c'est Dieu qui l'a. Okay? Ça veut dire que nous avons été prévus. Vous l'avez dans une des citations qu'on étudiera demain. Ou bien vous êtes au rendez-vous, ou bien je ne pourrais pas faire autrement que de laisser faire ça, si vous voulez, on expliquera ça demain. Mais voilà ce qui est arrivé. On a été averti. Alors ça, moi, le jour où j'ai découvert que, les grands gudolim savaient que le temps était arrivé, mais ils avaient des scrupules.
Mais Amcha n'a pas aperçu cet avertissement.
Si, et il a fait des sionistes. Ah, ben, je suis désolé. D'où le sionisme est sorti? Bon, je vous rappelle,
c'est interdit au Pologne. C'est-à-dire qu'en Pologne, il y avait des mouvements entiers de gens qui étaient prêts à aller en Israël, mais il fallait payer pour avoir une autorisation. Et il y a un tas de gens qui sont retrouvés dans la Shoah qui en
fait. Attendez, il fallait payer à qui? Il fallait payer à qui?
Pardon?
Il fallait payer à qui?
Il fallait payer aux banques
de pour
avoir
un certain nombre de certificats.
Et vous allez
me dire, si
la Pologne
avait un prix.
Mais dans le peuple, il y avait énormément de gens qui étaient, ils voulaient partir, et si Israël avait été ouvert, le père dit qu'il y avait des milliers de Polonais qui seraient
partis. Écoutez, je comprends ce que vous voulez dire. Et on a donc un compte à régler avec les Britanniques, ça c'est sûr. Okay? Mais, sans même dire aller en Israël, mais décroché d'une civilisation qui était devenue malade. C'est ça que je veux dire. Aller en Amérique, aller au Canada, aller en Italie, pas en Italie, parce que l'Europe, aller au Brésil, je ne sais pas. Comme a fait mon ancêtre de Pologne qui est allé se réfugier en barbarie en Algérie, les préparés. C'est pourquoi je m'appelle HTP. Qu'est-ce que vous voulez dire?
Vous ne pouvez pas partir, parler des Indiens, vous parlez comme ça en l'air.
Non, je ne parle pas en l'air, je suis désolé. Non,
d'ailleurs, écoutez,
je suis désolé. Ce dont je parle, c'est qu'une fois que le piège s'est refermé et qu'on ne peut pas sortir, le piège s'est refermé. Alors là, c'est le sacrifice qui commence. Je parle trop vite parce qu'on n'a pas de temps. Mais je dis de s'être laissé enfermer dans le piège, c'est ça l'histoire. De se constituer en siècle et en siècle comme étant l'entité populiste ou non populiste juive du pays et de la civilisation où on est. Ça a commencé, donc en fin de compte, cette espèce de catastrophe, lorsque les juifs allemands, enfin c'était l'histoire de tout à l'heure, c'est moi l'allemand et toi t'es goy. C'est de ça que je parle. À partir du moment où le piège est refermé, vous avez raison, le piège était refermé. Mais je ne voulais pas dire les choses aussi crûment. Ce n'était pas notre sujet, il faut voir ça sur les textes, on verra demain si vous voulez.
Je pense que monsieur a voulu parler de quotas tout simplement.
Non, je dis avant même tout cela. Avant même tout cela. Non, voilà ce que je voulais dire. Écoutez, laissez-moi parler. Je vous en prie. Je vous en prie, laissez-moi parler. Je vous en prie, laissez-moi parler. Je parle des consignes. Je parle des consignes. Écoutez, on m'a posé une question. Okay. Comment se fait-il qu'on n'était pas averti de signes qu'il fallait décrocher? J'ai répondu, on était averti de signes qu'il fallait décrocher, mais la majorité des chefs spirituels ont empêché. Et alors le piège s'est refermé, vous avez raison, le temps est arrivé, les quotas, etc. C'est sûr, ça veut dire d'une certaine manière, le caractère grave de la Shoah commence déjà dans les années 1910, et pas seulement 1920. Okay. Lorsqu'il y a eu la déclaration Balfour, c'est un signe que le temps est arrivé de décrocher, les rabbins ont dit non, c'est pas cachère. Voilà. Et alors ça c'est ça. Le nazisme est bien après la déclaration Balfour. Vous voyez? Et alors ça c'est. Le piège c'est refermé. C'est de ça que nous parlons. Je parle pas seulement du rabbin Schlag. Il y a un grand livre que je demande d'acheter, d'étudier, c'est le Collator. Et où, après la guerre des six jours, une centaine de rabbins de la Gouda, pas du Mizrahi, a consenti, a osé dire ce qu'il pensait, et finalement c'est un grand vidouille, c'est de notre faute, c'est le rabbin qui parle. Ces livres sont boycottés, ils sont achetés par les orthodoxes pour pas qu'on les trouve sur le marché. Mais il y a eu l'aveu est en fin de compte arrivé. Vous comprenez ce que je dis? Vous ne savez pas que l'aveu a été dit, les rabbins ont dit c'est de notre faute. Mais parce qu'on s'arrange qu'on ne lise pas ces livres-là. Il y a d'autres livres encore plus précis, par exemple, Emma Bani ou Samecha. Okay. Mais si vous voulez, demain je vous citerai. Moi, ce qui m'a frappé, c'est cela. C'est lorsque le judaïsme devient, par trop de scrupules piétistes, un problème de rite jusqu'à l'infime détail. Et c'est pourquoi je vais vous parler de ça comme ça. Qu'un rabbin puisse dire, ah non, ne va pas en Eretz Israël, parce que peut-être on ne fait pas la Shemitah, et c'est grave la Shemitah, et que ce qui attend, c'est le massacre. Alors moi je ne comprends pas, vous comprenez, c'est ça que je voulais dire. Est-ce que c'est clair? Voilà. Et encore une fois, je ne vous parle pas de qu'il fallait aller en Israël, là vous avez raison de dire, qui a dit, les Anglais empêchés, etc., on ne peut pas sortir, mais de quitter le pays où l'antisémitisme se dessine, c'est de ça que je parle. C'est clair? Et alors, cet entêtement à rester, on espère encore, j'étais un des juifs vichisés, vous rappelez le régime de Vichy? Alors on disait, vraiment, quel bonheur, en France ça ne peut pas arriver, pensez-en. Bon, l'Allemagne, c'est l'Allemagne, on sait ce que c'est, mais en France ça ne peut pas arriver. Non, c'est arrivé en France, j'ai venu encore dans le livre encore cette semaine. C'est une des manières, mais je ne peux pas le faire. Et là, on a envie de vous donner. Il n'y a pas de problème.
Elle avait raison, quand tu dois, avec toutes les fêtes. Il y en a un de mes collègues là, qui m'a dit, écoute, j'arrive pas à voir ma troisième année de papa. Je pense que...
Bien. Et alors voilà le deuxième midrash qui va dans ce sens. Tovin dodecha miyaïr, amar Rabbi Yehuda ben Pazi, harivim divrei sofrim mi divrei Torah. Et ensuite on donne plusieurs exemples. Voilà l'expression. Harivim divrei sofrim mi divrei Torah. Ça veut dire, les paroles des scribes sont plus précieuses que les paroles de la Torah. Paradoxe. Hein? Oui, le pshat, c'est ishakini nishikopiu. Les paroles que Dieu a dites, c'est plus important que tout. Il vaut mieux une petite parole que Dieu a dit que je ne comprends pas que beaucoup de paroles que quelqu'un d'autre a dit au sujet de Dieu et que je comprends. Parce que c'est quelqu'un d'autre qui a parlé. Il a parlé de. Alors que je vous rappelle de l'expression que nous avions dans le moment de Genèse à propos, c'est important, on est un peu sorti de cela, mais pas tellement. Parlons de judaïsme. Et si on cessait de parler de judaïsme, il faut commencer à parler le judaïsme. Parole le sujet de. Je vous rappelle de cette histoire juive. Un rabbin orthodoxe était engagé dans une communauté libérale. Et alors, il fallait qu'il fasse le sermon d'ouverture. Et il demande au président de quoi je peux leur parler. Eh bien, je vais leur parler de la cacheroute. Oh, monsieur le rabbin, parlez pas de cacheroute. Ici, c'est un sujet délicat. Communauté libérale. Eh bien, je vais leur parler de Taharat HaMishpacha. Oh, ne parlez pas de ça. Ici, c'est un sujet délicat. Bon, je vais leur parler du Shabbat. Non, ne parlez pas du Shabbat. Alors, de quoi je vais leur parler? Mais monsieur le rabbin, parlez-leur de judaïsme. Alors, où est le paradoxe? Donc, le paradoxe, c'est que on vient de dire dans le pshat du verset ce qui s'est passé au Sinaï, quand Dieu a parlé la Torah, c'est le plus important. Et voilà maintenant que nous ne sommes plus au pied du Sinaï, nous sommes au pied du Sinaï, mais très loin. On entend à peine l'écho. Mais le Midrash vient nous dire, et maintenant, Dibre Sofrim, ça veut dire le commentaire du scribe qui va mettre par écrit au bout de tant de siècles, c'est mieux que les paroles de la Torah. Vous voyez le paradoxe? C'est-à-dire, c'est celui qui sait comment il faut s'y prendre pour contre Dieu. Il y a une manière. Ça, il y a une manière. Tiens. Oui.
Par exemple, pour nous, c'est quelque chose
qui nous gêne. Peut-être. C'est qu'on peut expliquer le goût du compromis, et à part après, le goûter, le compromis, c'est-à-dire ennuyer par l'explication. Vous croyez? Je me rappelle, j'ai fait une fois un peu ces exercices de fiche signalétique en ethnologie sur les produits de civilisation des sociétés. C'était avec les Lévi-Strauss, les Nambiquara de l'Amérique du Sud. Et alors, tant qu'on n'avait pas vu l'objet, alors on nous donnait toutes les données signalétiques. Et puis, on avait, une fois qu'on voyait l'objet, on avait une idée absolument autre. Et on se disait, ah, c'était ça. Mais alors, on s'est baladé pendant des mois avec les connaissances de la fiche signalétique, et subitement, on voit vraiment ce que c'est. Alors là, on est dans le monde de la réalité. Je ne sais pas comment vous dire ça autrement. Je ne crois pas. Quelqu'un à qui on a expliqué la saveur du pamplemousse, que le jour où il va le goûter, va retrouver ça. Ce n'est pas possible. Ça, je ne crois pas. Vous savez, un chauffard, c'est une trompette. Vous vous rappelez de l'histoire? On va vous parler du chauffard. Vous allez avoir une fiche signalétique de trompette. Et puis un jour, vous allez entendre le chauffard. Il n'y avait rien à voir. Okay, on aura bien vous expliquer. C'est une trompette au son grave chez les Sparadis, mais. Aigu chez les Ashkenazim, les deux chez les Yéménites, etc. Et puis un jour vous allez entendre le chauffard. Rien à voir. Un chauffard, c'est pas une trompette. Vous comprenez le problème? Je crois pas. Par exemple, on va prendre le mythe de l'amour. Eh bien, la recherche de l'âme-sœur. Je sais depuis toujours qu'est-ce qui me manque, mais je ne connais qu'en connaissance négative. Un jour je la rencontre. Ce n'est quand elle est là que je me dis, ah, c'est toi. Sinon, nous savons que la rencontre est rare, etc. Ça, c'est comme le marbre, c'est le cas rare, mais. Mais je veux dire que c'est de cet ordre d'expérience. Et quand on a l'expérience, on voit que ça n'avait rien à voir. Et non, mais ça ne peut pas ressembler. Est-ce que c'est clair? Par exemple, on vous parle d'une recette de cuisine, mais vous la goûtez au restaurant. Mais ça n'a rien à voir avec comme c'était chez ma grand-mère. Vous voyez? Eh bien, c'est vrai, ça. C'est vrai, ça n'a rien à voir. Quelqu'un? Barou? Ah, Barou? C'est ça. Mais je crois que je reviens, je ne sais pas. Ça me plaît de le répéter, si j'ose dire. L'importance des enfants. Je crois que c'est... Depuis que je suis grand-père, je vois ça mieux encore avec les petits-enfants. Et il n'y a pas de doute que c'est eux qui nous aident à comprendre la Bible. Ben, je pense que c'est clair. Bon, les enfants discrets. On arrive à la deuxième lecture. La première lecture, c'est de ta part à toi, direct, en direct, pas en différé, comme on dit à la télévision. La révélation en direct, meitera. Mais, deuxième lecture, vechonenu, adéa meitera, la connaissance de toi. Parce que jusqu'à présent, nous avons beaucoup de connaissances, mais c'est les connaissances que tu nous donnes de toutes les choses du monde. Nous voulons la connaissance de toi. Oui, leur sens. C'est vrai? Vechonenu, c'est plus intérieur. Vechonenu, meitera, adéa, et c'est les deux choses sont dans le commentaire du Lord. Mais dans ce sens-là. Donc je récapitule. Qu'il me donne les baisers de sa bouche, nous demandons cela dans la tfila. Vehonenu meitecha de'a binaveaskel. C'est-à-dire que toi nous donnes la connaissance et que tu nous donnes la connaissance de toi. Voilà, je crois que c'est cela très exactement la foi juive. À travers les siècles jusqu'à nous et dans l'espérance messianique. Le très long temps que nous avons vécu, ce temps de chirachiri ou de fiançailles d'exil, a fait que dangereusement, mais les rabbins nous ont prévenu. Les rabbins du village, il y a 2000 ans. Les rabbins nous ont prévenu, il y a tant du Beit Rishon, c'est le rabbin du Midrash, 2400 ans jusqu'à 2000. 400 ans du Beit Rishon, faites attention, le livre risque de se mettre à la place de la bouche. Vous voyez, c'est, attention à cela. C'est-à-dire, ça vous explique la cohérence de ces machines. Vous risquez d'oublier que ce livre, ce n'est que la mise par écrit d'une parole qui a été dite de bouche à bouche. Voilà la consigne.
C'est le même danger que la considération diplomatique du Hénin par rapport au Hénin.
Oui, c'est parallèle. C'est parallèle. Vous voyez, j'ai entendu très souvent dire. Je crois que c'est un peu l'atmosphère dans cette maison de Yahya Olevovitch. Que, au fond, la révélation n'est venue que nous dire une seule chose, il n'y a pas de révélation. Et au fond, que Dieu ne s'est révélé que pour nous dire une seule chose, j'existe pas. Mais à la limite, c'est ça, cette espèce d'énorme paradoxe. Alors attention, c'est faux. Ça, c'est la maladie de l'exil. Okay? C'est faux. Les enfants savent que c'est faux. On ne triche pas avec les enfants à ce niveau-là. Et pas non plus avec les enfants d'Israël. Faites attention à cela. C'est très séduisant, intellectualisme. Ça, c'est de la Torah de salon. C'est ça? Avec, comme font aujourd'hui les chers arabes, le whisky dans des tasses de thé passe à la même couleur. c'est de la Torah de salon. Ça. C'est le dernier salon où l'on cause. Causons du judaïsme. Et bien voilà la grande révélation du judaïsme, c'est qu'il n'y a pas de révélation. Et voilà le vrai Messie, c'est celui qui ne vient pas, etc. Il faut se méfier de ça comme de la peste brune. Bien. Et il n'y a aucune idée à quel point on peut être de bonne foi, fervent et pieux avec des doctrines pareilles. Bien. Ce qu'a dit la Braïta que je vous ai cité. Amégalé, panim batora, shalok ahalacha, ello helek le ramaba, afalpish, yel veyado torah ou maasi. Celui qui dévoile des visages de la Torah qui ne sont pas selon la halakha, selon l'orthodoxie de la règle de lecture traditionnelle qui est multiple et ample en elle-même, shivim panim, mais shivim panim kasher. Okay? Alors celui-là n'a pas de part au monde à venir, même si la connaissance de Torah est piété de vertu. Afalpish et Eshviado Torah Maasi, et non Khelek Lamaba. Si les rabbins ont dit ça il y a 2000 ans, c'est qu'ils nous prévoyaient ce qui risquait de nous arriver. Une espèce de.
C'est
Mishnah de Perkei Avot. המגלה פנים בתורה שלו כך. סיסיטה, דרום ראיתה דרנסה נדרים פרק חלק, כן? זה משנה לפרקי אבות. המגלה פנים בתורה שלו כהלכה. J'explique là, je vais bien expliquer. C'est-à-dire que, à mon sens, il y a ici un phénomène propre à l'humour des intellectuels. Batora. Mais galépanim, Batora. Abalhem, Sheloka, Alakha. Vous savez, les lettrés, les érudits, ont entre eux une finesse d'humour, de paradoxe. Et puis, les gens grossiers entendent ça, ils prennent ça au sérieux, ils font une maquette, et alors c'est la contour. Vous comprenez ce que je veux dire? Je vais vous raconter une histoire de l'atmosphère des yeshivas lituaniennes. Deux Bahouri yeshivas qui discutent en partant d'un pile-poule très compliqué de Tosfot sur la gerbe du Homer, quelle longueur doit avoir la gerbe du Homer pour être très chère pour l'offrande au temple. Imaginez une discussion comme ça dans l'hiver de Lituanie. On n'a jamais vu le Homer ni le temple. Et on discute dans Tosfot 2000 ans après pour savoir la longueur de la gerbe. De fil en aiguille, la discussion arrive, est-ce que Dieu existe? C'est inévitable. Okay. Et alors, les deux Bahouri Yeshiva discutent passionnément toute la nuit, le matin, et ils sont d'accord, Dieu n'existe pas. Et alors, assoiffé par la discussion, il y en a un qui prend un verre d'eau et qui dit Baruch Ata Hashem, Elokeinu Melech Haolam, Shakoni Avet Baroi. L'autre lui dit Hacham, on vient de décider que Dieu n'existe pas. Qu'est-ce que tu dis, Braham, du monde d'ailleurs, il dit écoute, peut-être que Dieu n'existe pas, ça c'est des idées, mais tu crois que je vais boire un verre d'eau sans dire une bénédiction? Vous voyez, c'est toute l'atmosphère là. Quand on est grossier, gasloir, grossier, on dit ah, j'ai vu ce qu'il a dit, Dieu n'existe pas. Mais on boit un verre d'eau avec la bras. Ça vous fait un orthoprax en béton armé. Alors, c'est un manque d'humour, enfin, je sais pas comment dire. Les gens intelligents n'ont jamais dit ça. On a répété grossièrement une finesse qu'on comprend pas. Et ce qu'a dit le Baruch Yeshiva est très profond. Peut-être que Dieu n'existait pas, ça c'est pas urgent. Ce qui est urgent, tu vas boire de l'eau, d'Ingvar. Ça c'est sérieux. Bon, vous voyez quel est le problème? Alors, actuellement, nous vivons dans ce revival, je prononce l'anglais que je ne sais pas prononcer, mais revivalisme, okay. Oui, de la réflexion et de l'étude juive sui generis. Nous sortons de la clandestinité de la pensée juive, si j'ose dire. Alors, nous vivons dangereusement ces espèces de paradoxes de salon, enfin de judaïsme de salon, il faut s'en méfier. Il n'y a rien de plus grossier qu'un intellectuel qui se prend au sérieux lorsqu'il parle de choses spirituelles. Bien, alors écoutez, nous sommes arrivés à l'heure, on se donne donc rendez-vous à 3h30, ici, tout à l'heure. Alors, je te connaissais comme minorité nationale d'abord.
Vous voyez, par le biais de l'appartenance à la citoyenneté française, ça ressemble formellement à la manière de l'identité consistoriale ashkénaze, mais ça n'a rien à voir à l'origine. Ça va peut-être se transformer. Il y avait le quartier juif, la ville juive, mais c'était la nation juive. Vous comprenez, on se savait de minorité nationale. Et c'est ça qui joue. Et il y a aussi cette espèce de fierté humaine. Quand on dit sale juif à quelqu'un, il réagit d'abord pas pour des motivations religieuses, pour des motivations humaines. Et ça passe par le populisme de son identité. C'est assez fatal. Moi, je suis dans toute une classe. Vous savez, la promotion socio-économique des juifs en France se fait très rapidement. Et ça va très vite à la bourgeoisie aisée, puis à l'aristocratie, etc. Et à ce niveau-là, il y a une espèce de non-barrière, pas de barrière. On est tellement aisé avec le chrétien collègue ou voisin, que finalement, on va arriver à un stade para-américain où c'est des religions analogues. Mais ce que je crains, moi, c'est que je ne parle pas des philosophes ou des enseignants juifs qui sont strictement orthodoxes dans leur identité juive. Je parle, je ne veux pas parler du rabbinat, je ne veux pas parler de calomnie, je risquais de la calomnie, non, ce n'est pas ça. Je parle des porte-paroles confessionnelles du judaïsme qui seront toujours décalés, infériorisés, mal à l'aise dans ce langage de la parole biblique en français, alors que les curés seront chez eux, et que les curés, c'est leur langage. Voilà ce que je crains. Vous comprenez?
Oui. Mais je crois qu'il y a
alors, tu as la parole.
Dans cette réalité de communication, de plus grande communication entre le collège juif et le collège chrétien, etc., la plupart du temps, c'est le chrétien qui demande, c'est le chrétien qui est en désarroi, et qui demande aux juifs la recette de... Comment on fait pour rester en anneau? Parce qu'ils sont... C'est vrai que le christianisme est devenu minoritaire,
C'est vrai aussi ce que tu dis là.
Et qu'ils sont dans une situation galoute et ils savent plus.
C'est vrai ce que tu dis là. C'est vrai ce que tu dis là. Et je pense sérieusement que dans l'avenir, la diaspora d'Israël, ça sera le christianisme. Et ils demandent, laissez-moi parler, et ils demandent un apprentissage. Apprenez-nous comment on fait pour être la galoute d'Israël, parce que la galoute d'Israël maintenant. Ça sera eux. Mais c'est pas mon problème maintenant. Mon problème, c'est l'avenir des juifs, du peuple juif. Des juifs comme juifs. Parce que finalement, le problème des mariages mixtes, c'est un problème de la société juive, pas un problème de la société chrétienne. C'est ça. Et c'est à ça que je pense. Vous comprenez ?
Ah, d'accord.
Ouais, c'est ça.
Mais pas aux conversions. Je ne pense pas que les chrétiens veulent une conversion juive maintenant. Au contraire. Bon, même s'il y a encore quelques intégristes qui le veulent. Au contraire. Les chrétiens souhaitent que les juifs restent juifs. Mais, enfin,
bon, j'entends, j'enregistre, j'acquiers, enfin, d'accord. Ça ne m'a pas convaincu, mais enfin, ça fait rien, j'entends. Okay. Je vous fais part de mon souci, enfin, de mon inquiétude. Je le vois au niveau des instances officielles du judaïsme. Vous comprenez ? Le langage est déjà parachrétien. Le langage chrétien devient dangereusement parajuif. Vous voyez ce que je veux dire un peu ? Et alors, une minute. Les instances du judaïsme ont eu leur identité de symbiose culturelle avant la guerre mondiale. Et même s'ils sont plus jeunes, ils ont imité leurs anciens, ça continue comme ça à faire des petits. La jeunesse dont je parle, qui monte d'en bas et qui monte, elle n'a pas cette expérience de mémoire et se trouve dans une situation radicalement nouvelle où finalement il n'y aura pas de barrière que nationale. Et ceux qui n'ont pas la motivation nationaliste sont en danger. Voilà ce que je dis très très grosso modo. C'est clair ? Bon. Et mademoiselle avec moi, d'accord ?
J'ai gardé un sentiment, mais je ne fais strictement rien. Nous avons une fille qui a 6 ans et demi, et on a envie de le rencontrer, mais on ne sait rien, on ne peut rien rencontrer. Donc on a commencé à dire qu'il fallait la mettre dans un lieu, par exemple en vacances, où on allait le rencontrer. Et effectivement, ça se passe à travers, pour l'instant, la langue française. Là, par exemple, sur la liste de l'école, moi je suis complètement perdue, je comprends ce que vous dites en français, mais alors je sens qu'il me manque quelque chose, j'ai quelque chose de gardé. Et donc, on s'est dit, on allait attendre en même temps que notre fille. Mais on ne sait rien. Et effectivement, il y a un danger, c'est que des gens pourraient nous parler comme ça vaguement en français, c'est pas autre chose.
Ah oui, mais très bien. Ben oui, exactement. Vous n'avez aucune idée à quel point j'ai vécu cela dans la génération précédente. J'étais une des premières vagues de sfaradim arrivé en France. Et j'ai trouvé un milieu de sécurité par rapport à ma confrontation que je commençais in vivo, parce que j'avais eu in vitro en Algérie, avec le monde chrétien. C'était le milieu ashkenaz qui avait 2000 ans d'expérience de ce problème. Nous étions protégés dans le milieu ashkenaz. Alors que, ensuite, la grande vague de l'immigration nord-africaine est arrivée, elle n'a pas cette protection. Si il y a les yeshivot, il y a les Talmud et Torah, il y a les petites paroisses, etc. Ce sont des petits milieux, vous savez, par rapport à la naissance. Des petits oasis.
On est trop dispersés.
Il y a des petits oasis. Et en tant, si vous voulez, que je me sens solidaire de ma communauté d'origine et de son destin, si j'ose dire, je suis très inquiet de voir ces juifs de si grande qualité être déjà devenus des goïms de religion juive sans religion.
Exactement.
Des goïms de religion juive sans religion. Finalement, c'est ça. Or, je sais très bien, objectivement, je dis objectivement, que le frein que j'ai voulu donner à mes enfants et mes petits-enfants, mes petits-enfants, qui est le frein nationaliste israélien, ils n'ont pas. Ceux qui n'ont pas de raison de l'avoir sont en danger. Voilà à peu près ce que je voulais dire. Vous voyez, on est encore en digression, mais ça fait rien. Avec le tout.
Je connais bien
le juif
italien.
Oui.
Et tout de suite après la guerre, les grands rabbins des Rambouches, ils se sont battus aussi pour moi. C'était une coupe d'œil pour le judaïsme italien qui essaye d'accumuler tout le monde. À tel point qu'un rabbin, je ne veux pas nommer les noms, elle était mon modèle.
Ça a été si sérieux que ça, la.